Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Daniel, au chapitre 1er. Daniel, chapitre 1er. Nous ferons une lecture dans ce chapitre, différents versets, donc vous pouvez le garder ouvert avec vous. J'aimerais parler avec vous ce matin sur ce thème, quand tout va mal, tout va bien. Daniel, chapitre 1. Dans la vie, parfois, nous passons par des moments tellement difficiles que tout va mal. Les mauvaises nouvelles s'accumulent, les difficultés se succèdent les unes aux autres, et je dirais même s'empilent les unes sur les autres, et au bout d'un moment, on a l'impression que tout va mal. Quoi qu'on aille à gauche, à droite, on regarde en arrière et c'est facile à ce moment-là de se décourager, de se dire c'est mon lot, c'est mon sort, de dire maintenant c'est terminé pour moi, Dieu m'a abandonné. Et c'est peut-être une réaction que nous sommes tentés d'avoir. Mais il y a une autre réaction possible. Je discutais il y a quelque temps avec un frère qui me disait « Oui, mais aujourd'hui tout va mal, il me disait tout va mal ». Et c'est vrai que quand on regarde l'économie, ça va mal. Il me disait, bientôt, il n'y aura plus de pétrole, il faudra marcher à pied, il faudra reprendre les chevaux comme autrefois. Alors, petit à petit, il commençait à me saper le moral. Et puis, il continue, et puis il dit, bientôt, il va falloir payer pour les Grecs. C'est nous qui allons devoir payer pour les Grecs. Oh là là, je me disais, mais comment on va faire pour s'en sortir ? Déjà qu'on a du mal avec nous-mêmes, mais comment on va faire pour les Grecs? Et puis, il finit par dire, de toute façon, on n'est pas sûr d'arriver à la retraite parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, de toute façon, on n'aura pas d'argent pour la retraite. Alors là, c'était le coup de massue. Alors, quand on discute avec un chrétien, vous voyez, il faut avoir un bon moral. Et je lui dis, mais quand même, on a le Seigneur. Alors nous, on a une autre espérance, parce que notre espérance n'est pas sur les choses de cette terre. C'est vrai que tout va mal. On s'en rend compte autour de nous. Les difficultés sont là. Il y a le chômage, l'insécurité, etc. Tout va mal. Mais d'un autre côté, nous pouvons dire tout va bien avec le Seigneur, avec sa grâce, avec sa présence. Et c'est ce discours-là que nous devons développer, frères et sœurs. Parce que les discours négatifs, on les entend beaucoup plus que les discours positifs. Je prends l'exemple de Daniel parce que dans sa vie, tout va mal à un moment donné. Le royaume d'Israël, je dresse un petit tableau du contexte de chapitre 1 de Daniel. Déjà, d'Israël a été détruit, ravagé, ils ont été déportés depuis longtemps. Il reste le petit pays de Juda. Vous savez que Juda, c'est une petite terre, même plus petit qu'un département français. Et les derniers juifs croyants sont sur ce territoire de Juda, mais voilà qu'à nouveau une invasion, donc ils étaient là repliés, il y avait encore le temple de Jérusalem, et à nouveau une invasion de Nebuchadnezzar, un grand roi, un roi puissant, qui détruit tout ce qui reste. Alors, Joachim, le roi en place, est emmené en captivité à Babylone. Le temple, c'est le lieu sacré, le lieu où les Juifs viennent rendre leur culte. Les objets du temple sont profanés, ils sont emmenés à Babylone. On peut dire que ça va très très mal. Et puis, l'élite du pays, dont fait partie Daniel d'ailleurs, Daniel est un des nobles, un des personnalités influentes, intelligentes de son époque, il est dans une famille de nobles, eh bien, ils sont tous emmenés en captivité. Nebuchadnezzar ne laisse que ceux qui n'ont pas de savoir-faire, les pauvres du pays, et il les laisse là sur place. On peut dire que la situation est terrible au point de vue humain. Le verset 2, Daniel 1, 2, « Le Seigneur livra entre ses mains, c'est-à-dire de Nebuchadnezzar, Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. » Alors ça, c'est quelque chose de catastrophique. Parce que si vous touchez au temple, c'est comme si vous touchez au cœur de ce qu'il y a dans la religion juive. C'est comme si on touchait à Dieu directement. C'est comme si le lieu saint a été profané. Et ça, c'est un blasphème, c'est absolument inacceptable, incompréhensible pour des juifs pieux comme Daniel. Daniel, on estime qu'il a une quinzaine, entre 15 et 18 ans peut-être, un jeune, et il se destinait à une brillante carrière dans son pays. Il était déjà bien élevé dans les hautes fonctions, promu à un bel avenir, et voilà que tout vient être bouleversé parce qu'il fait partie de ceux qui ont été emmenés à 1000 kilomètres de son pays, donc à Babylone. Il y a une autre culture, une autre langue. Et si on lit le chapitre 1er, on se rendra compte que de suite, dès que le roi Nebuchadnezzar les a fait venir dans ce pays étranger, il a changé tous les noms. Il a changé le nom de Daniel en Belshazzar. Alors pour nous, peut-être ça ne dit pas grand-chose. Mais derrière le mot Belshazzar, il y a le mot Bel. Et le mot Bel, c'est le nom d'un dieu du pays où il est maintenant. C'est que Bel protège le roi. Belshazzar, que Bel protège le roi. Donc c'est maintenant sur son nom, il a une divinité étrangère. On peut dire que c'est dur, ça va mal pour lui. Son nom n'est plus Daniel, Dieu est mon juge. Maintenant on l'appelle Belshazzar, d'une divinité étrangère. Et c'est pareil pour ses trois amis. Vous connaissez Shadrach, Meshach, Abednego. Tout ça, c'est des noms qui leur ont été donnés, mais qui sont des noms de divinités étrangères. Et tout cela pour les humilier, pour les abattre. Alors, dans les premiers versets, on voit qu'il va être enseigné dans la science des Babyloniens. Pourquoi ? Pour pouvoir discerner les songes, parce que beaucoup croyaient en ce temps-là que Dieu parlait au travers des rêves, alors il fallait interpréter les rêves, donc ils étaient enseignés dans toutes ces choses-là. Et puis, surtout, on veut les forcer à manger de la nourriture du roi. Et ça, Daniel refuse. Alors c'est le verset 8. Daniel prit la ferme résolution de ne pas se souiller, ou Daniel résolut de ne pas se souiller, par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alors, on peut dire que les soucis s'accumulent. Déjà, il est à l'étranger, il est prisonnier. Maintenant, on lui impose de manger une nourriture. Il résiste, il ne veut pas. Mais à ce moment-là, il aurait pu renoncer. Il aurait pu dire, mais c'est terminé. Le peuple a été enlevé de Juda. Nous sommes captifs, nous n'avons plus d'espérance. Dieu nous a abandonnés. Il aurait pu renoncer et dire, bon, c'est terminé pour moi. Maintenant, je vais mourir ici, je n'atteindrai pas la retraite, je vais mourir ici, voilà, c'est fini. Il aurait pu être résigné. Mais il a choisi une autre attitude, et c'est celle-ci, frères et sœurs, que nous devons rechercher. C'est l'attitude de la résolution et de la foi en Dieu, même quand tout va mal. Parce qu'il y a quelque chose en lui qui lui dit, mais parce que Dieu est là, tout va aller bien pour toi. Il y a quelque chose, il y a une voix qui lui dit à l'intérieur, même si tout va mal autour de toi, même si toutes les choses tournent à l'envers de ce que tu as espéré, à l'intérieur, il entend la voix de Dieu qui lui dit, mais il va se passer quelque chose, le Seigneur va ouvrir une porte, il va te faire grâce et tout va aller bien. Il a la foi. Donc, cette espérance, nous devons la porter et il va prendre un risque à un moment donné où il aurait peut-être mieux valu se taire. Quelquefois, on dit parfois, il vaut mieux faire le dos rond, se taire. Ben, lui, il va dire aux responsables des prisonniers, il va dire non, nous ne mangerons pas cette nourriture. Nous ne voulons pas nous souiller. Il voulait se garder pur parce que dans sa religion, dans sa foi juive, il ne devait pas consommer certains aliments impurs. Donc il était ferme dans la parole. Et donc ça nous parle de la détermination à être fidèle à Dieu. Et ça, parfois nous sommes tentés par le compromis en disant bon, on va faire un petit peu, on aurait pu prendre un petit peu et puis continuer à prier et continuer à faire le compromis comme si de rien n'était. Et puis, ça serait passé inaperçu. Non. Daniel n'est pas de ce genre. Il est entier avec Dieu. Et ce qu'il croit dans son cœur, il croit que Dieu est tout-puissant, eh bien, il s'attend à ce que Dieu agisse en conséquence. Donc, pas de nourriture interdite par Dieu. Alors, tout continue, on peut dire, à mal tourner. Mais c'est à ce moment-là que ça va basculer. C'est au verset 9, vous voyez, parce que tout est entre les mains de Dieu. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Au verset 9, Dieu fit trouver à Daniel, faveur et grâce devant le chef des eunuques. Tout va mal dans sa situation, mais en même temps, tout va bien, parce que Dieu est là, et Dieu va ouvrir une porte pour lui qu'il ne voyait pas, qu'il ne comprenait pas, qu'il ne connaissait pas. C'est que Dieu va toucher le cœur de ce responsable-là pour permettre à Daniel de ne pas manger ces mets interdits par la parole de Dieu. Et c'est ça qui va commencer à déclencher les choses. Alors, vous voyez, on peut être dans une situation de marasme complet, de situation d'obscurité, et à un moment donné, il y a toujours une petite lumière qui va arriver de quelque part, de quelqu'un, d'une personne peut-être qui est même pas un croyant ici dans ce cas-là, c'est même un ennemi du peuple de Dieu, c'est un responsable donc de Babylone, eh bien la solution va jaillir, parce que Dieu dirige les temps et les événements. Il y a quelques années, dans les années, on va dire 1940, un jeune évangéliste qui s'appelait Billy Graham, vous avez certainement entendu parler de cet évangéliste, qui prêche la parole de Dieu dans le monde entier, eh bien, Billy Graham était inconnu à l'époque, et il ne savait pas comment aller plus loin. Il était un petit peu bloqué dans son avancée, et il continuait à prêcher dans des petits auditoires encore. Et lors d'une de ces réunions, il s'est trouvé qu'une seule personne parmi l'auditoire a pu changer toute chose. C'est un homme qui travaillait dans la presse, qui s'appelait William Randolph Hearst, qui était propriétaire des journaux dans tout le pays des États-Unis. Et comme il a été touché ce soir-là par la prédication de cet évangéliste qui était encore inconnu, et Dieu a influencé son cœur, le cœur de cet homme, pour que dans la semaine qui suit ou le lendemain, paraissent des articles favorables à Billy Graham. Si bien que du jour au lendemain, cet homme évangéliste Billy Graham, qui était encore inconnu dans le pays des États-Unis, son nom va être connu, ses croisades vont être annoncées dans les journaux, et alors là il va commencer véritablement le ministère qu'il a eu, c'est-à-dire l'évangélisation même du monde, et des multitudes ont été gagnées à l'évangile grâce à ce moyen-là. Dieu a utilisé un non-croyant qui était très riche, qui avait de la possibilité de faire connaître cet homme, donc Billy Graham, partout, qui avait beaucoup de journaux. Eh bien, Dieu a utilisé cet homme pour un croyant, afin de permettre à ce croyant de faire l'œuvre de Dieu. Alors, vous voyez comme quoi Dieu n'est pas limité. Quelquefois, on se dit, mais on n'y arrivera jamais, on est trop petit, on ne s'en sortira pas. Mais il y a quelqu'un autour de nous, il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas, il y a quelqu'un qui va nous tendre la main, il y a quelqu'un qui va permettre une bénédiction, un miracle, et voilà, l'œuvre de Dieu va se faire. Daniel est dans ce cas de figure, et il va proposer un marché donc à ce responsable en lui disant, bien, tu vas nous éprouver pendant 10 jours, et si au bout de 10 jours, on va manger que des légumes et boire de l'eau, on ne prendra pas la nourriture du roi, parce que c'était sacrifié aux idoles, toutes ces choses-là, on va prendre que des légumes et de l'eau, et si au bout de 10 jours, eh bien, nous sommes en bonne santé comme les autres, eh bien, on pourra continuer comme ça. Alors le responsable donc était d'accord, et c'est ainsi que ça se passe au verset 15 maintenant. Nous avançons dans notre chapitre 1er pour vous montrer combien Dieu va bénir cette situation. Pourtant, Daniel n'est pas en situation de force, il n'est pas en situation de négociation, mais quand Dieu est avec nous, alors il change les choses. Et à ce moment-là, au bout de 15 jours, dit la parole de Dieu, verset 15, plutôt au bout de 10 jours, ils avaient, donc c'était Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel et ses trois amis, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Ça, c'est la touche de Dieu maintenant. Parce que ce n'est pas avec ces légumes, vous comprenez bien, ce n'est pas avec des légumes et de l'eau. C'est la grâce de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu qui est sur leur vie. Parce que des légumes et de l'eau, ce n'est pas ça qui va vous donner embonpoint et ce visage. C'est parce qu'ils ont le Seigneur dans leur vie. Et ils ont renoncé à prendre tout ce qui était mauvais pour leur âme. Ils ont moins que les autres, mais finalement avec Dieu, ils ont plus. Ils sont perdants en apparence, mais en réalité, ils sont toujours gagnants. Ils sont pauvres peut-être, mais en réalité, ils sont riches parce qu'ils ont une richesse que le monde n'a pas. Et ça, c'est les croyants, frères et sœurs. Alors, nous ne devons pas perdre cela de vue. Quel est leur avantage? Verset 17, on continue dans le chapitre 1er. Daniel 1, 17, Dieu accorda à ces quatre jeunes gens, Daniel et ses trois amis, la science, l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Alors vous voyez qu'on a toujours raison de faire confiance à Dieu. En apparence, il va perdre. En apparence, peut-être, il va avoir plus de problèmes, parce que s'il résiste aux responsables des prisonniers, il va avoir des difficultés. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Même si tout va mal, frères et sœurs, en réalité, tout va aller de mieux en mieux quand nous faisons confiance au Seigneur. Tout va bien. Dieu accorde l'intelligence, Dieu accorde la sagesse, Dieu accorde... Il est dans un contexte très négatif, il est dans un contexte d'opposition, il est loin de sa famille, il a été arraché à ses amis, loin de toutes ses connaissances, et pourtant, Dieu ne l'a pas abandonné, et Dieu ne nous abandonne pas non plus, frères et sœurs, quand nous nous sentons bien seuls, bien abandonnés. Dieu nous donne l'intelligence, il nous donne la science. Nous pouvons prier le Seigneur ainsi. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Donne-moi ta sagesse. Donne-moi la solution dans cette situation sans issue. Et Dieu va révéler des choses cachées aux hommes. Peut-être des savants se sont plongés, des hommes intelligents ont réfléchi, n'ont pas trouvé. Mais un mot du Seigneur et la situation est changée. Jésus en parle quand il dit « Ce ne sont pas les sages et les intelligents de ce monde. » Mais Dieu les a révélés aux enfants. Il dit, je te loue de ce que ce n'est pas aux sages, aux intelligents que tu as révélé ces choses, mais c'est aux enfants. Daniel, c'est un enfant de Dieu. Il a un cœur d'enfant. Il a le cœur du croyant. Et il reçoit la sagesse. Et il reçoit l'intelligence. Alors peut-être vous êtes dans une difficulté, mais nous pouvons prier, Seigneur, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse pour me faire sortir de cette situation, afin que ton nom soit glorifié. Au bout de 3 ans, donc, à ce régime de l'eau, des légumes, ils ont tenu les 3 années de la formation, eh bien, la Bible dit qu'à la fin, ils surpassaient tous les sages et tous les intelligents du royaume. Et quand il fut présenté au roi, parce que Nebuchadnezzar les fait venir, il les fait défiler, il les éprouve, eh bien, Daniel fut trouvé 10 fois supérieur à tous les autres sages et intelligents. 10 fois supérieur, ce n'est pas possible humainement. Vous pouvez étudier, vous pouvez travailler pendant des heures, des mois, des années. Mais à un moment donné, quand c'est Dieu qui agit dans votre esprit, quand c'est Dieu qui vous donne les pensées et l'intelligence, alors à ce moment-là, vous avez une autre intelligence qui n'est pas de vous-même, mais qui est la grâce de Dieu. Je crois que Dieu peut agir même dans nos neurones. Il paraît que tous les jours, on perd des dizaines et des centaines de neurones qui partent comme cela, qui se neutralisent, qui meurent, eh bien je crois que Dieu peut renouveler, peut restaurer notre intelligence et nous donner de nouvelles pensées, une nouvelle sagesse, une nouvelle attitude à avoir dans telle ou telle situation. Ça, c'est sa grâce. Alors certains disent, oui, mais ce n'est pas possible ce que vous racontez, ça s'est passé autrefois, aujourd'hui Dieu n'agit pas comme ça. Alors si vous pensez comme ça, c'est certain que Dieu n'agira pas comme ça pour vous. Parce que Dieu honore la foi de ceux qui croient. Daniel croyait, oui, il aurait pu dire, bon, c'est terminé, je suis maintenant perdu, je suis loin du pays, je suis loin du temple, voilà, je ne crois pas que Dieu va faire quelque chose. Mais s'il avait été dans cette attitude, vous croyez qu'on aurait entendu parler de Daniel un jour? Jamais on n'aurait entendu cette histoire. Mais il était animé d'un autre esprit, un esprit de foi. Et il disait, ce que Dieu dit, je suis convaincu qu'il va l'accomplir. Je suis convaincu que ce que Dieu a fait hier, il va le faire encore aujourd'hui. Ce que Dieu a fait avec son peuple dans le désert, avec Moïse, avec l'œuvre que Dieu a accomplie, eh bien c'est toujours le même Dieu. Ce que Jésus a fait au milieu de nous, eh bien je crois qu'il va faire la même chose aujourd'hui. Ça c'est la foi. Et dans cette situation où tout va mal, eh bien Dieu va commencer à changer les choses. Et petit à petit, on va voir que tout va aller bien pour Daniel parce que c'est le seul. Si vous lisez la fin du chapitre 1er, il est dit qu'il va vivre jusqu'à la première année de Cyrus, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs rois qui vont se succéder, et en fait ça va durer 70 ans. Et il va toujours se retrouver pendant ces 70 ans à la tête et en position de responsabilité, parce que Dieu a sa main sur lui. La Bible dit, au psaume 31, « Mes destinées sont dans tes mains. » Mes destinées ne sont pas dans les mains du médecin. Mes destinées ne sont pas dans les mains de celui à qui je dois quelque chose. Mes destinées sont dans les mains de Dieu. Ça, c'est différent. Ça veut dire que Dieu a un plan pour ma vie et qu'il va agir en conséquence. C'est comme ça que Daniel a été garder. La fin du verset dit, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Il y a peut-être des gens qui vous veulent du mal. Vous avez peut-être même des ennemis qui vous côtoient ou dans votre lieu de travail, des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous font des obstacles. Mais votre destinée n'est pas dans leurs mains. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Vous voyez, un jour, Aman a voulu détruire Mardoché. Mardoché, c'était un enfant de Dieu. Il voulait le détruire. Il a tout fait pour qu'il soit pendu. Mais en réalité, à la fin, c'est Aman qui a été pendu. Mardoché est sorti vainqueur. Ça, c'est l'enfant de Dieu. Ils ont médité du mal contre vous, mais c'est eux qui tomberont dans le piège qu'ils ont formé pour vous, parce que Dieu veille sur ses enfants. Mes destinées sont dans ta main. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alors, nous le confessons. Mes destinées sont dans ta main, Seigneur. Deuxième exemple, la Tsunamite. C'est dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4. Une femme vit dans la ville de Sunem. C'est une ville au nord d'Israël. Elle est pleine de foi, pleine de prière. Et elle connaît le prophète Élisée et elle veut honorer cet homme. Et comme elle est riche, la Bible dit que c'est une femme de distinction, c'est-à-dire une femme riche, son mari aussi. Donc ils construisent sur le toit plat de leur maison une petite chambre où sera accueilli le prophète. À chaque fois que le prophète venait dans la région, il pouvait rester là quelques jours, passer du temps là, continuer à servir Dieu, et puis après il continuait sa route. Et un jour, Élisée ressent dans son cœur, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour cette femme? Alors il lui dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Est-ce qu'on peut parler au roi? Est-ce qu'on peut parler au chef de l'armée? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'aider? Et cette femme, très humble, parce qu'on peut être très riche et être dans l'abondance, mais garder l'humilité, elle dit, non, je vis au milieu de mon peuple, et elle n'exprime aucun besoin. Mais en réalité, cette femme était stérile. Elle n'a pas dit « je voudrais un enfant ». Elle n'a rien dit. En fait, c'est comme si elle a laissé Dieu agir. C'est comme si elle avait remis son problème, son fardeau à Dieu. Et être stérile à l'époque, il faut bien comprendre que c'était véritablement une souffrance, certainement encore aujourd'hui, bien sûr. Mais d'autant plus que si vous n'aviez pas d'enfant, vous n'aviez personne pour vous occuper de vous quand vous allez être âgé. Parce qu'à l'époque, c'était... Bien avant les systèmes de caisse, de sécurité sociale et tout ça. Et c'était les enfants qui s'occupaient des parents jusqu'à leur âge avancé, jusqu'à leur mort. Et si vous n'aviez pas d'enfants, ben vous étiez vieux, ben voilà, il n'y avait personne pour s'occuper de vous. Et donc c'était plein de choses, de souffrances qui étaient accumulées, pas de descendance, pas la joie d'avoir des enfants, pas la joie d'avoir une famille avec des enfants. Bon, tout cela c'est une souffrance. Alors Élisée reçoit une parole de Dieu pour elle, il lui dit « l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils », au verset 16. Le miracle se produit. Un an plus tard, le fils arrive. L'histoire aurait pu s'arrêter là. On dit « Merci Seigneur, Dieu est bon. Il a donné un fils à la femme stérile. Et maintenant, on chante le Seigneur, Alléluia. » Sauf que les problèmes vont venir. Peut-être quand il a une douzaine d'années, on ne sait pas. C'était un jeune garçon. Il était dans les champs. Et tout d'un coup, il a des forts maux de tête, comme des coups de marteau dans la tête. On croit une insolation, le père l'envoie chez sa mère, la mère prie pour lui, il est sur ses genoux et elle prie de tout son cœur. Elle sait que Dieu peut faire des miracles comme nous le savons tous. Elle a vu le miracle de Dieu parce qu'elle était stérile, elle a eu un enfant. Elle a vu la main de Dieu, elle sait que Dieu peut guérir cet enfant. Sauf qu'elle prie, plus elle prie, plus il va mal. Et finalement, l'enfant, terrible, il meurt à midi, elle a prié toute la matinée, il meurt sur ses genoux. À ce moment-là, tout s'effondre, et c'est comme si dans son esprit, Dieu avait repris ce qu'il lui avait donné. Alors, on peut dire tout va mal, parce que dans une situation pareille, on peut chercher quelque part une petite chose qui va bien. Mais là, tout va mal. C'est grave, c'est désespérant, c'est l'obscurité, il n'y a même pas une petite lumignon d'espoir. Le fils est mort, qui pourra lui rendre son fils? Cette femme prend le corps de son fils et va le déposer sur le lit de l'homme de Dieu qui est à la chambre haute. Et elle va voir son mari, elle ne lui dit rien. Elle garde dans son cœur cette souffrance. Et son mari l'interroge, mais pourquoi veux-tu aller voir Élisée? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. Lui, il est un peu religieux, lui, il y a des jours spéciaux pour aller voir. C'est comme ceux qui vont le dimanche à l'église, et puis voilà, le reste de la semaine, il n'y a plus rien. Mais elle répondit cette phrase, alors vous l'avez dans 2 Rois, chapitre 4, et au verset 23, elle répondit à son mari, « Tout va bien. Alors qu'en réalité, sa situation, on pourrait dire, tout va mal. Elle est en train de vivre cette dichotomie entre la réalité, tout va mal, et ce qu'elle dit de sa bouche, tout va bien. Et c'est ça, finalement, frères et sœurs, que nous vivons souvent. Nous sommes dans des situations où tout va mal, et on pourrait dire, ben, tout va mal, et tout va de plus en plus mal, et c'est de pire en pire, et puis le Seigneur nous a abandonnés, et maintenant c'est la mort. Eh bien, elle est en train de dire, par la foi, tout va bien. Parce qu'avec Dieu, tout va toujours bien. Il fallait avoir le ressort et la foi pour dire cela. En hébreu, en fait, elle prononce un seul mot, qui est « shalom », c'est-à-dire « la paix ». Elle est en train de dire « c'est la paix ». Et la paix de Dieu, dit Paul, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Combien souvent on a besoin de la paix quand on est dans l'obscurité? Quand tout va mal, on a besoin d'une chose, c'est la paix. S'il y a des bruits de guerre, s'il y a l'obscurité, peut-être on entend des mauvaises nouvelles. Mais si on a la paix de Dieu, si on est gardé dans la main du Seigneur, alors on peut dire, ben, tout va bien, on est dans la présence de Dieu. Je prends une illustration pour vous montrer cela. L'image du potier qui travaille la terre glaise. Si la terre glaise pouvait parler, mais quelle souffrance! Elle est commencée, elle pourrait dire, mais pourquoi est-ce qu'on me triture de cette manière-là? Pourquoi on me fait souffrir de cette manière-là? Parce que le potier est en train de la malaxer pour faire sortir toutes les bulles d'air. Et puis après, pourquoi est-ce que je suis maltraité? Pourquoi est-ce qu'on me donne des coups? Pourquoi est-ce qu'on me déforme? Et puis après, elle est mise au feu. Pourquoi est-ce qu'on me fait brûler? Pourquoi est-ce qu'on me fait tant de mal? Elle ne comprendrait pas tout ce qui lui arrive, toutes ses souffrances. Et puis après, elle est mise sur une étagère, elle est oubliée. Pourquoi on m'a abandonné? Pourquoi on m'a laissé tomber? Pourquoi personne s'intéresse à moi? Et puis, on la barbouille de peinture, on lui colle des choses dessus pour la décorer. Et à nouveau, on la remet au four. Pourquoi on me fait brûler? Deux fois plus fort maintenant. Si la terre glaise pouvait parler, elle ne comprendrait rien de ce qui lui arrive, parce qu'elle n'est que souffrance, que douleur, qu'abandon. Mais en réalité, à la fin, il y a un processus qui fait que quand elle est passée une deuxième fois au four, ça permet que la faïence donne tout son éclat et que ça soit un beau vase. Sauf que tout cela, nous n'en avons pas conscience tout au long du processus. Et bien souvent, nous sommes dans le processus comme la terre glaise. Nous sommes dans les mains du potier, dit la parole de Dieu. Nous sommes façonnés par Dieu. Et nous sommes à des instants où nous disons, mais Seigneur, pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Pourquoi tous ces coups? Pourquoi ces calamités? Pourquoi ce feu? Pourquoi ces flammes? Pourquoi ces difficultés? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous sommes dans le processus d'être transformés. Paul dit, nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image du Seigneur. Le processus, est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif? Il est positif. Transformé de gloire en gloire. C'est positif d'être transformé de gloire en gloire. Mais ça nécessite des moments difficiles. Ça nécessite peut-être des moments où on ne comprend pas, où on se sent abandonné. Élisée, donc, voit arriver cette femme de loin, puisqu'il est sur un mont, le mont du Carmel, et il envoie son serviteur Géasi en lui faisant dire, mais tout va bien, ton mari, ton fils vont-ils bien? Et une deuxième fois, vous pouvez lire au verset 24, deuxième fois, cette femme dit, ben c'est bien, tout va bien, shalom, alors qu'elle est toujours dans cette angoisse, mon fils, qu'est-ce qui est arrivé à mon fils, il est mort. Et lorsqu'elle arrive devant Élisée, alors, si vous lisez la suite, elle s'effondre complètement et elle dit, mais pourquoi? Pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi Dieu m'a repris son fils? Pourquoi as-tu trompé ta servante? Tu m'as donné un fils, Dieu l'a repris. Dieu m'a donné un fils, il l'a repris. Alors, on ne va pas la juger, cette femme. On ne va pas lui dire, mais tu manques de foi. Pourquoi est-ce que tu pleures dans ta situation? Tu devrais croire que Dieu va faire quelque chose. Parce que n'oublions pas qu'elle vit ces deux réalités. D'un côté, tout va mal, et d'un autre côté, tout va bien. Mais on ne va pas juger quelqu'un parce qu'il pleure, parce qu'il souffre, et parce qu'il répand sa peine devant Dieu. Parce qu'en réalité, c'est normal d'exprimer devant le Seigneur toute sa souffrance. Et elle va le faire, et elle va pleurer, et elle va répandre son cœur devant Dieu. Alors Élisée se rend chez elle, parce que Dieu n'en a pas terminé avec cette femme, et avec cet enfant. Et lorsqu'il arrive dans la chambre haute où est couché l'enfant, la Bible dit qu'il va s'étendre. Il va s'étendre sur l'enfant et il va prier. Tout d'un coup, le corps de l'enfant va se réchauffer. C'était la mort. Il était froid. Et tout d'un coup, l'œuvre de Dieu commence à se faire. C'est-à-dire que l'âme qui était partie revient dans son corps. Et à ce moment-là, il éternue 7 fois. C'est le signe, on va dire, cet éternuement 7 fois. C'est le signe que la vie est revenue en lui, que la respiration fonctionne à nouveau. Alors, en fait, dans cette histoire, tout allait bien depuis le début, mais en fait, à un moment donné, elle voyait bien que tout allait mal. Mais en réalité, comme la situation est entre les mains de Dieu, alors on peut dire, tout va bien. L'enfant est rendu à sa mère, il est en bonne santé, et maintenant, on peut dire que Dieu contrôle toutes choses, et que si à un moment donné, on dit tout va mal, mais en réalité, si on pouvait voir au-dessus, Dieu contrôle la situation même quand tout va mal, et à la fin, eh bien Dieu, lui, il terminera en faisant justice. Alors peut-être quelqu'un s'interroge sur son travail, il a perdu son travail, et il dit tout va mal, j'ai pas de travail, c'est en difficulté, mais en réalité, c'est que Dieu a une autre porte. Quelquefois, des portes se ferment, voyez, on se dit, oh là là, j'ai pas de chance, et tout ce qui m'arrive, j'ai eu un entretien, je pensais que c'était ça, et ça s'est fermé. Mais on peut dire, merci Seigneur, parce que tu as une porte encore meilleure pour moi. Voilà ce qu'on peut dire, frères et sœurs. C'est que si cette porte-là s'est fermée, ce n'était pas pour vous. Mais que Dieu en a une autre en attente, quelque part, qui va bientôt s'ouvrir. Et peut-être si on avait forcé les choses et qu'on était allé dans cette porte-là, ça se serait très très mal passé. Donc, il ne faut pas se décourager parce qu'une porte s'est fermée, mais au contraire, bénissons le Seigneur de ce qu'une porte va s'ouvrir et celle-ci sera la bonne. Peut-être quelqu'un a été atteint par la maladie et il dit « tout va mal, je n'ai pas de résultat positif, j'ai que douleur sur douleur, souffrance sur souffrance ». Mais en réalité, c'est notre vie qui est entre les mains de Dieu et c'est lui qui décidera de notre sort. Alors on peut dire « tout va bien avec le Seigneur, par sa grâce, il prend soin de moi et il veillera sur moi ». Et peut-être quelqu'un est déçu dans un mariage qui a échoué, peut-être un divorce, une souffrance, et se dit « pour moi c'est terminé, eh bien je n'aurai plus d'espoir, personne ne voudra de moi ». Mais en réalité, c'est Dieu qui déterminera, et il est capable de reformer une famille comme il le désire. Même un mort, pour Dieu, c'est pas un problème. Lazare était mort depuis 4 jours, mais Jésus n'était pas découragé, il n'était pas consterné par cette situation. Il savait qu'il venait pour autre chose. Tout allait mal, c'était la mort, mais en même temps, tout allait bien. Je termine avec Paul, acte 27, pour vous montrer un dernier exemple dans la parole de Dieu, où quand tout va mal, tout va bien. Acte 27, Paul est prisonnier dans ce chapitre. On peut lire à partir du verset 22. Il est contraint de se rendre à Rome, en prisonnier pour plaider devant l'empereur. Et lors d'une halte dans l'île de Crète, à ce moment-là, il reçoit un avertissement du Seigneur qui lui dit « Attention, il ne faut pas prendre la route pour Rome en bateau, il va y avoir une tempête. » Il en fait part à l'officier supérieur qui le conduit. Et l'officier, lui, il préfère interroger le capitaine du navire. Le capitaine du navire se renseigne et il perçoit que selon la météo, il n'y aura pas de problème. Alors, se croyant maître de leur dessein, dit la Bible, ils prirent le bateau. Vous voyez, il y a la parole de Dieu qui dit une chose, mais les hommes décident autre chose, parce qu'ils choisissent leur voie, leur vie. Ça, c'est l'orgueil, ça, c'est la suffisance, ça, c'est la vanité. Et peu après qu'ils soient partis, parce qu'au début, c'est un vent léger, c'est comme si le diable avait tendu un guet-apens, et il les a laissés partir. Mais rapidement, ce vent léger a mal tourné, c'est devenu une tempête, de sorte qu'ils n'ont pas pu regagner la côte. Ils ont été entraînés vers le large et les marins ont lutté contre la tempête. Ils ont ceint le navire avec des énormes cordes pour ne pas qu'il se rompe. Et à ce moment-là, la tempête a duré plusieurs jours. Le soleil ne paraissait plus. Alors la Bible dit qu'ils n'avaient plus aucun espoir de s'en sortir vivant. Alors on peut dire dans cette situation, Paul est là-dedans, ce n'est pas de sa faute. Il a été entraîné malgré lui dans cette affaire. Et tout va mal dans cette embarcation, c'est bientôt la mort. La Bible dit qu'ils avaient perdu tout espoir d'être sauvés. Alors on pourrait dire tout va mal. Alors on arrive au verset 22. Paul reçoit une parole. Ça faisait plus d'une semaine qu'ils étaient dans la tempête. C'est une tempête phénoménale, une tempête qui, qui ne finit pas, il y a l'obscurité partout. Ils ne mangeaient plus, ils avaient jeté la cargaison par-dessus bord, mais voilà. 22. Maintenant, dit Paul, je vous exhorte à prendre courage. Tout le monde était découragé. Car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, ne crains point, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. Alors, tout va mal, effectivement, dans cette situation. Et c'est encore la tempête quand Paul donne la parole. Mais en même temps, nous pouvons dire que tout va bien parce que Dieu a pris les choses en main et que le bateau sera certes détruit, mais aucune âme ne sera perdue. Ça, c'est la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Et avec cette parole dans leur cœur, eh bien, ça va leur donner la paix, ça va leur permettre de passer l'épreuve. Et si vous lisez la suite du récit, vous verrez que tous vont arriver sains et saufs sur une île. Parce que Dieu a veillé à chacun. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Paul, qui est un croyant, un enfant de Dieu, qui reçoit des paroles, des révélations, et à cause de Paul, toute l'embarcation a été sauvée. Vous voyez, quand il y a un chrétien quelque part, le chrétien apporte la bénédiction partout où il va. Dans son travail, il apporte la bénédiction. Dans sa famille, il apporte la bénédiction. Quand il côtoie des gens, il apporte la bénédiction de Dieu avec lui. Dieu va épargner un navire entier pour une personne, parce que c'est Paul. C'est Paul, le serviteur de Dieu, qui doit se rendre à Rome. Alors, quand tout va mal, on peut dire tout va bien. Quand il y a un cyclone qui se lève avec des vents à plus de 500 km/h, des cyclones qui peuvent atteindre 1000 km de diamètre, ça ravage tout sur son passage, des arbres sont arrachés, les maisons sont comme des boîtes d'allumettes qui s'envolent, tout est détruit. Mais il y a un endroit dans le cyclone qu'on appelle l'œil du cyclone, c'est une zone de calme. C'est une zone où les vents ne dépassent pas les 30 km/h, où le ciel est bleu, où il y a une paix, une tranquillité, c'est un paradoxe. Alors qu'autour, tout va mal, tout tourne dans tous les sens et tout est ravagé, il y a un endroit qui est un lieu de paix, il y a un endroit qui est un lieu de grâce, il y a un endroit qui est un lieu de bénédiction. Ça, c'est une image pour nous montrer que même si tout va mal et tout tourne mal autour de nous, pour nous croyants, il y a un lieu de paix et il y a un lieu privilégié. Jésus a dit, venez à moi, vous êtes chargés, vous êtes fatigués, ça tourne autour de vous. Mais il y a un lieu de paix, vous trouverez le repos pour vos âmes ici. C'est en Jésus. Que Dieu soit béni. La bénédiction accompagne le chrétien, on le voit avec l'histoire de Joseph, qui, chez Potiphar, il était esclave, mais il va aller de bénédiction en bénédiction. Il prospérait, il montait les échelons. Et la Bible dit que Dieu bénissait Potiphar et toute sa famille à cause de Joseph. Donc Dieu bénit aussi à cause de nous et il permet que même un travail prospère, une famille, une église, partout où nous sommes, il y a la bénédiction de Dieu. Voyez, la vie continue. Lorsque Paul arrive à Malte, parce qu'ils sont arrivés sains et saufs à Malte, une île en plein milieu de la Méditerranée, et à un moment donné, ils veulent faire du feu pour se réchauffer, ils sont trempés. Et Paul dit, c'est dans Actes 28 maintenant, Paul prend des broussailles, du bois pour faire le feu, il participe. Et en prenant les broussailles, il y a une vipère qui s'accroche à son bras, qui le mord. Et à ce moment-là, les gens du pays qui voient ça, ils disent, mais cet homme, certainement, il doit être un meurtrier. Parce que Dieu, la justice, ils disent, la justice ne l'a même pas épargné. Alors qu'il vient d'échapper à une noyade certaine maintenant, il est mordu par un serpent. Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Peut-être Paul aurait pu dire, ben voilà, c'est fini. C'est fini pour moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant, je vais écrire mon testament, c'est mes dernières heures, je vais mourir là. C'est triste. Il aurait pu en terminer comme ça. Vous savez ce qu'il a fait? Il a secoué l'animal dans le feu. Il y a un verset qui dit, Marc 16, 18, ils saisiront des serpents. Ça, c'est pour nous. Et il a saisi le serpent, il a dit, c'est pas le serpent qui va me secouer, c'est moi qui vais secouer le serpent. Ça, c'est la grâce de Dieu, frères et sœurs. Parce que le serpent, lui, il est mort, mais Paul, il était resté toujours vivant, de sorte que les gens du pays disaient, oh là là, ça doit être un dieu tellement il n'a pas été atteint par le mal. Alors, David, lorsqu'il gardait les troupeaux, la Bible dit que quand un lion ou un ours venait pour dérober des brebis, eh bien, il courait après l'ours et il courait après le lion. Alors vous imaginez, ça c'est la foi, ça c'est véritablement, les rôles sont inversés parce qu'en général, c'est plutôt le lion qui court après nous. Mais là, c'est David qui court après le lion. Et alors quand il l'attrape, attention au lion, hein, le lion il va passer un mauvais quart d'heure, il va lui arracher la brebis de sa gueule et puis il va le tuer. Alors à ce moment-là, c'est véritablement que David est rempli du Saint-Esprit. Alors Paul l'a vécu, nous croyons que Dieu veut le faire aussi pour nous. On va prier quelques instants, la situation est difficile. Peut-être quelqu'un dit ce matin, mais c'est vrai, tout va mal, tout est difficile. Et peut-être vous avez les yeux focalisés sur la difficulté. Et c'est vrai que quand tout va mal, des fois on en rajoute un petit peu. Et on assombrit un peu le tableau en disant, oh là là, et puis demain ça va. Et puis à la fin du mois, comment on va faire? Et puis on se crée des problèmes qui n'existent pas encore aujourd'hui. En apparence, je dirais, tout va mal, mais la réalité, frères et sœurs, si nous sommes en Christ, nous pouvons le dire ce matin, tout va bien avec mon Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Dieu va me sortir de cette situation. Dieu a déjà la solution pour ce problème. Et je vais lui faire confiance. Je ne la vois pas aujourd'hui, mais ce n'est pas pour ça qu'elle n'existe pas. En réalité, tout va bien. Peut-être vous êtes seul, vous êtes célibataire, vous attendez pour vous marier. Et vous dites, je ne vois personne. Je ne vois pas. Je vais finir seul. Je ne serai jamais marié. Mais en réalité, elle existe déjà, cette personne. Vous ne la voyez pas encore. Mais Dieu va vous la montrer. Et à ce moment-là, la chose se fera. Je discutais avec une jeune il y a quelque temps qui souffrait de cela, me disait, oh là là, j'arrive à 22 ans, je suis toujours célibataire, qu'est-ce que je vais devenir? Ben oui. 22 ans, ce n'est pas la fin de la vie quand même. Et elle était désespérée, on a prié. Et quelques temps, peut-être 2 ou 3 ans après, elle a trouvé un beau jeune homme et ils se sont mariés, que Dieu soit béni. Il existait déjà. Elle ne le voyait pas, elle ne le connaissait pas à l'époque. Et comme elle ne le connaissait pas, elle était désespérée. Mais nous croyons que Dieu a des plans et des projets. Ils vont surgir au bon moment. Ils viendront quand ce sera le temps de Dieu. Prions un instant. Merci Seigneur, tu es là. Et nous voulons confesser ta fidélité, ta grâce, même si tout va mal, nous disons tout va bien. Avec mon Dieu, nous savons que nous pourrons aller de l'avant. Et que même si les choses sont négatives autour de nous, toi tu vas les changer en choses positives. Oui, dans le nom de Jésus, nous savons que tu es là et nous te faisons pleinement confiance. Merci Seigneur, merci de garder mon frère, ma sœur, qui s'attend à toi, qui vit une souffrance, qui vit peut-être dans l'obscurité, qui se dit, mais comment vais-je terminer? Je ne m'en sortirai jamais. Mais pouvons dire ce matin, tout va bien par la grâce de Dieu, parce que tu as des solutions. Nous ne voyons pas encore aujourd'hui, mais nous savons qu'elles existent, parce que nos destinées sont dans ta main ce matin. Et tu ne permettras pas qu'un seul de nos cheveux tombe à terre sans que tu ne l'aies permis, parce que tu veilles sur nous, parce que nous sommes tes enfants. Nous disons, grande est ta fidélité, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.